Partant du principe que les créatifs publicitaires sont pleins de bonnes idées et surtout pleins d'idées nouvelles. Partant du principe que la régie autonome des transports parisiens est concernée par la diversité, l'égalité entre les hommes et les femmes, la poésie et tout plein de belles choses. L'un dans l'autre, on se demande comment l'on se retrouve en payant ses 73 euros mensuels d'abonnement face à des panneaux de 4 mètres par 3 où l'entreprise Maubussin vend sa dernière montre en faisant poser une jeune femme dans une voiture, en culotte et bas dentelle, arrivant à mi-cuisse. Il devrait exister un droit du voyageur ou du citoyen dans la ville pour que ce face-à-face ne soit plus rendu possible. Nous avons ici dit combien des campagnes contre le harcèlement sexiste dans les transports en commun seraient nécessaires et efficaces. Je propose donc, en toute amitié, de remplacer, par exemple, les premiers panneaux par les seconds et ne suis pas certaine que l'on vendrait moins de montres pour autant. Il est 14h, tout le monde serait gagnant. Bienvenue dans les nouvelles vagues. En fin d'émission, la rubrique 5 fois vous fait entendre 5 récits en lien avec notre chantier thématique. Cette semaine, Diane Le Riche raconte 5 moments, 5 sensations qui ont jalonné la progressive mise en concordance de son corps et de la femme qu'elle s'est toujours sentie être.
Non, nous ne sommes pas des monstres, nous sommes simplement nous-mêmes. Nous sommes aussi diverses que le monde est divers.
Nous sommes aussi diverses que le monde est divers. Voici ce que Diane Le Riche scande dans ses plaidoyers lors d'interventions militantes ou de sensibilisation. On l'écoute vers 14h50. Troisième temps de ce chantier thématique consacré au corps des femmes. Alors évidemment, les troubles alimentaires, leur mise en scène et en récit sur les réseaux sociaux ne touchent pas exclusivement les femmes ou les jeunes femmes, pas exclusivement, mais encore majoritairement. Depuis plusieurs années, le terme pro-ANA, principalement consolidé par des discours politiques de santé et des articles un poil dramatisants, est utilisé pour désigner une sphère du web où se ferait, par différents moyens, l'apologie de la maigreur et de l'anorexie. Une enquête de 6 ans, analysant les contenus en ligne et s'augmentant d'entretiens, ne permet pas de conclure à une diffusion massive par le web de ses croyances et de ses conduites à risque. Cette enquête, sans minimiser aucun danger, mais plutôt en évidence un type de vigilance collective, une ambiguïté de multiples nuances dans les usages et aussi l'impact à envisager plutôt positivement de la sociabilité en ligne de ces personnes malades. Cette enquête, c'est vous qui l'a signée, Paola Tubaro et Antonio Casilli. Bonjour à tous les deux, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez le livre Le phénomène pro-ANA, avec des guillemets sur lesquels on va probablement revenir, et c'est publié aux Presses des Mines. As I was walking through a life one morning, the sun was out, the air was warm, but oh, 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 I was cold. And though I must have looked a half a person to tell the tale in my own version, it was oh, oh, only then that I felt whole. Chanson qui rappelle et qui vous ramène, j'imagine, quelques années en arrière. Vous l'entendez en 2008. Dans quelles conditions et en quoi cela déclenche l'enquête dont on parle aujourd'hui ?
Alors, on l'entend dans une situation un peu particulière parce que c'était une époque dans laquelle Paola et moi et d'autres collègues ont travaillé déjà sur, d'une part, les comportements alimentaires, de l'autre, évidemment aussi, l'usage d'Internet. Et nous tombons sur cette chanson-là à un moment où, vraiment, on ne connaissait pas la sociabilité communauté internet des personnes atteintes de troubles alimentaires. Et cette chanson, qui s'appelle Me and Mia, donc la Mia c'est la boulimie, donc parle de troubles alimentaires, et même si elle ne parle pas d'internet, elle semble afficher une posture qui est extrêmement forte et voire de revendication. La chanson dit si tu crois en quelque chose de beau, lève-toi et deviens-le, et en plus elle présente les troubles alimentaires comme un combat, et en plus dans la chanson on insiste sur Anna and Mia. Qui sont Anna et Mia? C'est des personnifications presque de l'anorexie, Anna, et de la boulimie, Mia. Et c'est à ce moment-là que, après, faisant une recherche sur un moteur de recherche, on tombe sur une quantité énorme d'articles qui parlent de ce phénomène qu'on qualifie de pro-Anna. Donc, en gros, il existerait des sites qui prônent l'anorexie, voire qui font l'apologie de l'anorexie, et qui sont présentés d'une manière alarmiste et évidemment effrayante, comme un phénomène nouveau, presque un mouvement. Ou dans certains cas, vraiment, c'est présenté comme un mouvement. Et c'est à ce moment-là que la curiosité face à cette sorte de culture extrême devient chez nous un questionnement sociologique qui après s'articule évidemment avec certains objets d'études qu'on avait déjà traités et après évidemment aussi avec les objets d'études d'autres collègues qu'on implique dans notre enquête et qui va se transformer en 2010 dans un vrai projet de recherche et qui cherche en gros à répondre à la question est-ce que vraiment, on peut parler d'un mouvement pro-Anna, donc qui
fait... Avec l'hypothèse d'une homogénéité, bien sûr.
En plus, oui, avec l'idée que le mouvement soit animé par une véritable idéologie, donc de défendre les troubles alimentaires non pas comme une pathologie, mais comme quelque chose qu'il faut revendiquer. Ou alors plutôt une démarche individuelle et collective qui pousse à l'extrême la logique d'injonction à la maigreur, par exemple, qui existerait dans la presse commerciale, dans le discours du marketing et de la pub. Donc ça, c'est l'hypothèse de départ. Et on a travaillé sur cette hypothèse de départ, en plus en l'articulant avec l'impact d'Internet et des réseaux sociaux d'Internet, jusqu'à arriver, quelques années après, à des résultats qui étaient vraiment à l'opposé, aux antipodes, par rapport aux hypothèses de départ.
Et on va évidemment revenir longuement sur ces résultats et aussi assez précisément parce que ça occupe une place assez importante dans votre livre sur, d'une part, la méthodologie et, d'autre part, l'engagement des chercheurs que vous êtes tous les deux, mais dans votre réseau de chercheurs, à dialoguer très directement avec les politiques de prévention et de santé. Mais simplement, vous présentez comme une évidence que Anna et Mia, dans cette chanson, renvoient à anorexie et boulimie. Or, ce sont des mots de code et il me semble important de commencer par réfléchir à comment est-ce que vous traduisez, comment vous êtes interpellé, comment vous vous dites Anna c'est anorexie et Mia c'est boulimie, et d'autre part, que révèle l'usage de ces mots de code?
Ben, c'est des mots du code qui avaient commencé à être utilisés dans l'espace web des troubles alimentaires américains, où ces sites ont vu le jour d'abord au début des années 2000, fin des années 90, avant qu'ils ne soient observés en France, et qui en fait arrivent en France plus tard, quand on commence à voir apparaître ces sites vers le milieu, deuxième moitié des années 2000. En France, je dirais qu'il y a beaucoup cet effet d'emprunt. On voit effectivement dans les blogs des personnes concernées, dans leurs forums, beaucoup d'images qui sont clairement prises des blogs américains dont elles se sont inspirées, des images et des contenus qui ont fait un peu le tour du monde. Mais on voit aussi une approche qui change un peu dans le temps et qui n'arrive pas en France avec la même portée de conviction qui pouvait avoir été perçue comme telle aux États-Unis. En France, c'est beaucoup plus nuancé globalement. C'est plus tard, donc ça, il y a un effet temporel aussi. et c'est beaucoup plus ambigu. C'est-à-dire qu'il y a une réutilisation de ces images, de ces mots, de ces termes, mais d'une manière très contrastée. Donc, on voit parler de Anna et Mia comme des petites fées, par exemple, personnifiées avec une sorte d'attachement personnel, mais en même temps, la même personne parle d'enfer, de mort et des maladies. Ce qui fait comprendre que son attitude elle-même, elle n'est pas univoquement favorable à Anna et Mia, mais elle cache des ambiguïtés, peut-être un conflit personnel beaucoup plus profond et complexe qu'on s'est attaché à faire un peu plus apparaître et à élucider dans notre travail de recherche.
Alors vous montrez aussi toute une stratégie d'évitement de visibilité combinée avec des stratégies de visibilité. Ce Anna et Mia, il permet quoi ? De constituer une communauté qui pourrait se reconnaître dans ces mots de code ou de pouvoir échapper à la vigilance de toute forme de surveillance, que ce soit de la surveillance la plus intime parentale à la surveillance la plus politique ?
Les deux en même temps, c'est-à-dire que des fois, c'est des noms de code qui aident les personnes simplement à se reconnaître parce que ce n'est que celles qui sont concernées par des troubles alimentaires qui vont les utiliser et donc vont comprendre. Bah, si quelqu'un s'appelle sur un forum Anna, c'est que peut-être... Mais en même temps, ils sont utilisés avec beaucoup d'attention pour justement éviter que d'autres s'en aperçoivent. Et d'ailleurs, on a observé dans le temps un usage, je dirais, assez décroissant de ces termes devenus identifiables parce que publicisés dans la presse et connus désormais de tout le monde, au profit de variantes, des mots qui seraient plus difficilement...
Comme quoi, par exemple
Même simplement, au lieu de dire pro-Anna, on parle de Anna et quelque chose d'autre, des choses qui seraient moins immédiatement reconnaissables par un moteur de recherche, en fait. Donc, pour éviter de se faire trouver immédiatement.
D'ailleurs, c'est ça, hein, vous dites bien combien est-ce que ce pro-Anna que vous prenez soin de mettre entre guillemets sur la couverture du livre, c'est beaucoup une construction médiatique a posteriori et c'est pas tant une construction de cette fameuse communauté qu'on a voulu présenter comme étant homogène, si bien que si on rentre pro-Anna ou si on rentre anorexie internet, on n'arrive pas du tout sur les blogs dont vous parlez, Antonio Casilli.
Entendons-nous bien. On l'a mis, entre guillemets, sur la couverture du livre. En plus, on s'est efforcé, et on est certain de l'avoir fait dans le reste du livre aussi. Parce que la prise de position est vraiment de réinterroger l'objet social pro-Anna, justement en questionnant les représentations même des personnes qui se revendiquent en tant que telles. Parce qu'il y a, vous dites une question de construction a posteriori, moi je parlerais de co-construction. D'une part, il y a évidemment un élément de stigmatisation médiatique de la part de certains professionnels de la santé, je veux dire, hein, mais et après évidemment des élus et des politiques, des hommes politiques. Donc il y a un effet de stigmatisation et de quelqu'un qui d'une part fantasme ou a peur de la montée d'un prétendu mouvement Anna. De l'autre côté, par contre, il y a une espèce de revendication presque de fierté, mais en même temps, attention, si quelqu'un se revendique pro Anna, très souvent n'est-ce pas pour dire « je fais de l'apologie », mais plutôt parfois pour trouver un synonyme à « trouble alimentaire ». Et pourquoi ? Bah parce que finalement, de dire « pro-Anna », c'est quelque chose qui est moins pénible et finalement qui relève moins de la détresse et qui est presque une démarche, on va dire comme ça, de capacitation. C'est-à-dire « je donne un sens » à ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive, parfois, n'est même pas une anorexie. Et c'est ça l'une des découvertes les plus épatantes pour nous, mais en même temps, certains médecins l'avaient découvert avant dans leur discipline, et que même si on parle de pro-Anna, à peine 20% des personnes qui ont participé à notre enquête étaient atteintes d'une véritable anorexie en tant que telle.
Et les autres ?
Ah ben, les autres avaient d'autres types de troubles alimentaires. Typiquement, il y avait presque autant de boulimiques, donc 19-20% de boulimiques, selon le pays évidemment. Et après, le reste, et ça c'est encore une fois quelque chose d'assez révélateur, c'était 60% de troubles mixtes ou de troubles non identifiés. Pourquoi ? Bah parce que les psychologues aussi et aussi les autres professionnels de la santé qui sont impliqués dans l'étude et dans le traitement des troubles alimentaires savent depuis longtemps qu'il faut faire évoluer la diagnostic et finalement reconnaître que l'anorexie n'est que l'une des facettes et en plus la facette la plus connue et aussi la facette, si vous voulez,
la plus valorisante, c'est-à-dire celle qui, parmi les troubles alimentaires, est vraiment celle qui relève du contrôle, la restriction alimentaire, alors que d'autres, par exemple typiquement les boulimiques, sont plutôt dans la perte de contrôle. Donc si quelqu'un est boulimique ou si quelqu'un est carrément atteint d'un trouble alimentaire, mais même en surpoids, parce que nous, parmi nos enquêtés, on a des personnes qui sont en surpoids, ces personnes-là se disent, finalement, l'anorexie, parmi tous les destins possibles, elle n'est pas si mal que ça. Mais en même temps, là, c'est le trouble qui s'exprime. C'est pas quelqu'un qui dit, qui est en train de prôner une idéologie ou de porter d'être le porte-parole d'un mouvement. C'est le trouble qui s'exprime, qui est aussi un trouble qui passe par, évidemment, une perte de cognition de soi-même et de son corps.
Justement, on vous invite dans le cadre d'une série d'émissions sur le corps des femmes. Alors, évidemment, ça fait sens et en même temps, ça ne fait pas sens. Vous précisez dans le livre que tout ce qui touche à cette sociabilisation en ligne autour des troubles alimentaires n'est pas exclusivement féminin. Pour autant, est-ce que je fais bien de rappeler que c'est encore majoritairement féminin ?
Oui, les participants à notre enquête étaient principalement des femmes. On a eu quelques hommes, mais une petite minorité. Les médecins nous disent, mais je dirais plus aujourd'hui qu'au moment où on a commencé notre étude, que la population masculine touchée est en augmentation. C'est quelque chose qu'on a vu très peu, en fait. Et en partie, ça pourrait être, j'imagine que c'est parce que c'est peut-être encore plus stigmatisé que le trouble alimentaire féminin, puisque c'est pas considéré comme quelque chose de normal pour un garçon d'avoir une anorexie, une boulimie ou un autre type de trouble de ce genre. Et donc, c'est peut-être encore moins souvent reconnu comme tel par la personne elle-même et par son médecin, médecin traitant, la famille. Et il y a peut-être donc du travail à faire de ce côté-là en termes de prévention et d'information auprès de la population masculine qui se manifeste moins et socialise moins. C'est ce qu'on a pu voir, que la population féminine plus habituée à se retrouver avec ces types de problèmes.
Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un phénomène d'emprunt à des blogs et des sites et des forums existants préalablement aux États-Unis et qui gravitent autour de l'expression de soi dans le cas de troubles alimentaires. Quel est le contenu qu'on trouve sur ces sites-là? Quel genre d'expression? Vous parliez de photographie. De quoi s'agit-il? Quel genre de prise de parole? Quelle rédaction?
Alors, on a différents types de contenus. Évidemment, tout d'abord, il y a des récits de vie. Surtout, c'est les récits à travers lesquels la souffrance, la détresse s'expriment. Souvent, sont extrêmement chargés et en plus détaillent d'une manière très précise le fait d'avoir un certain type de trouble alimentaire. Souvent, c'est des personnes qui ont un diagnostic, qui ont été suivies ou qui sont encore suivies. Et ça, c'est déjà un élément révélateur et qui en plus vous montre à quel point un trouble alimentaire est aussi associé à des formes de comorbidité, c'est-à-dire qu'on a aussi d'autres troubles, par exemple de type neurologique ou de type psychologique. Un autre type de contenu qu'on trouve est de nature plutôt, disons, folklorique. C'est vraiment le folklore de Anna et Mia, même si cela est en train de disparaître progressivement. C'est par exemple des mèmes, c'est-à-dire des images accompagnées par des textes d'inspiration à la maigreur, d'une manière ou d'une autre, ou de encouragement, non pas forcément à la restriction alimentaire, mais plutôt à disons, donner des devises pour pouvoir vivre avec le trouble. Voilà. Il y a aussi, si vous voulez, si on parle vraiment de folklorique, tout un élément de, par exemple, de chansons qui parlent d'anorexie. Par exemple, celle qu'on a écoutée était l'une des chansons qui était écoutée il y a une dizaine d'années. Et il y a aussi des vidéos, des documentaires. Et là, on tombe aussi dans un autre type de contenu. Parce que souvent, ces communautés de personnes atteintes de troubles alimentaires sur Internet sont aussi des grands lecteurs, ou alors sont peuplées plutôt de grands lecteurs et lectrices, de littérature scientifique, c'est-à-dire d'articles publié dans des revues savantes, parfois des revues de biologie ou des revues de médecine, ou parfois même des revues de sociologie et d'anthropologie, qui parlent des troubles alimentaires. Et donc, il y a une espèce de circulation, c'est une véritable construction de savoir, de savoir d'un certain type. Par exemple, certains sites s'appellent Université d'Anna, ou alors Lycée d'Anna. Et là, carrément, le tout est structuré comme si c'était presque un MOOC, c'est-à-dire un site en ligne d'enseignement. On peut télécharger des modules pour apprendre à vivre avec le trouble alimentaire ou au moins donner un sens au trouble alimentaire. Et après, finalement, il y a tous les espaces de socialisation. Les espaces de socialisation, c'est les parties cachées des blogs, c'est auxquelles on accède après avoir acquis un identifiant et un mot de passe, les forums de discussion. Et à un certain moment, on a vu apparaître des communautés sur les réseaux sociaux numériques du type Facebook, Twitter, Pinterest, etc., etc. Mais là, on se heurte à un élément qu'il ne faut pas sous-estimer. La censure des plateformes même. Les plateformes numériques opèrent une censure assez radicale, depuis longtemps.
Avec quelles règles ?
Ah bah la règle, en général, est d'abord d'éliminer tout ce qui pourrait attirer de la mauvaise publicité pour la plateforme même. Donc on élimine toutes les recherches par mots-clés qui aboutissent donc à quelque chose qui peut être identifié comme pro-ANA. Donc Google, depuis 2008, censure régulièrement toute recherche qui relève de pro-ANA, pro-MIA, etc. Et aujourd'hui, si vous cherchez ces termes dans les moteurs de recherche, vous tombez plutôt sur A, des articles anti-pro-ANA, B, des articles qui sont cités, B, des blogs ou des forums qui sont cités dans des articles de, que sais-je, Le Monde ou Libé. Donc finalement, c'est plutôt Le Monde et Libé qui est référencé. Et après, évidemment, il y a tout simplement la posture à la Facebook de censurer d'une manière assez radicale tout ce qui pourrait apporter ou pourrait aboutir dans un tribunal et donc finalement qui pourrait apporter quelque chose de négatif.
C'est légal ?
Ce n'est jamais complètement légal dans la mesure... Enfin, les contenus actuellement sont encore légaux.
Mais le fait de les censurer, je veux dire.
Le fait de les censurer, c'est évidemment une énorme controverse. Les plateformes sont aujourd'hui au centre d'une controverse parce qu'elles revendiquent ou parfois elles se retrouvent avec la responsabilité de censurer des contenus qui finalement ne leur appartiennent pas parce que c'est des contenus générés par les utilisateurs. Mais c'est une plus vaste question.
Cette proposition de loi vise à créer un nouveau délit. Ce nouveau délit, c'est l'incitation à l'anorexie ou à la maigreur extrême. Elle vise n'importe quel moyen de communication, médias et notamment les sites internet, justement, qui sont des sites extrêmement morbides où on peut carrément parler de manipulation mentale qui représente un véritable danger pour les jeunes filles. Aujourd'hui, un des problèmes de santé publique les plus importants, c'est le surpoids et que paradoxalement, les représentations que l'on a du corps sont extrêmement filiformes, totalement désincarnées et ces sites et ces images proposent à des jeunes des pratiques et des régimes qui mettent en péril leur santé et voire même leur vie.
On entend ici Valérie Boyer, c'est une archive qui est tirée de lina.fr, on est en 2008, elle s'exprime dans le cadre du projet de loi santé Bachelot et pour une réponse répressive à ce qu'elle se figure être comme une mise en circulation assez homogène de contenus incitant à certains comportements. Alors c'est un endroit de la loi qui n'est pas passé et vous y revenez en fin d'ouvrage et vous le présentez comme plutôt une victoire. Pourquoi est-ce que c'était une réponse, cette réponse répressive, quelque chose que vous considérez comme inefficace ?
La proposition Boyer, d'ailleurs, pour nous a été un point de départ, c'est-à-dire que ça nous a fait interroger sur est-ce qu'elle a raison. Elle nous dit que c'est un danger et en fait, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que ceux qui avaient étudié les sites dit Ploana auparavant, n'avait pas pu conclure sur ces thèmes et c'est l'une des raisons qui nous a incité davantage à commencer cette enquête. Une proposition semblable qui n'a pas non plus abouti, a été proposé l'an dernier dans le cadre de la loi santé. Et là, on avait par contre des éléments pour dire que ça aurait été, ça aurait eu des effets négatifs plus que positifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas un effet, il n'y a pas des incitateurs contre des victimes. C'est en fait plutôt des sites, des espaces numériques où les personnes concernées par des maladies expriment leur détresse et cherchent du soutien. Et la réponse dont elles ont besoin, qu'elles cherchent même parfois explicitement et activement, c'est un meilleur accès aux soins. Généralement, l'usage d'Internet pour parler des troubles alimentaires est dû au fait qu'on n'a pas assez de soutien, de soins et d'aide concernant la maladie autour de soi. Et on va la chercher en ligne. Donc, ce qu'il faut, c'est de proposer davantage de soins plutôt que criminaliser. Ce qui aurait fini, et c'était ça vraiment le risque à notre avis, c'est que ça aurait fini par mettre en prison des malades au lieu de les amener vers les soins, vers les médecins. Et cela n'aurait pas pu ni nécessairement stopper l'épidémie, s'il y en avait une, ni guérir les malades.
D'ailleurs, on reviendra sur des propositions que vous faites de... au contraire, s'infiltrer dans ce réseau existant, mais peut-être un peu plus tard. Restons un peu sur cette proposition répressive. De quoi est-ce qu'elle est le nom ? En tout cas, de quoi est-ce qu'elle est le signe ? Parce que c'est assez intéressant. Évidemment, là, cela s'applique à ce prétendu mouvement, prétendument nommé Pro-Anna, mais c'est peut-être le signe d'un comportement un peu plus général à l'égard de contenus qui circuleraient sur Internet, Antonio Calicilli.
Alors, cherchons d'abord à mettre des balises un peu chronologiques. Là, l'extrait qu'on a entendu, écoutez, c'était remonté à 2008. Et c'était donc une loi du gouvernement Sarkozy, une loi santé du gouvernement Sarkozy, auquel s'était rattachée une autre proposition de loi une autre représentante du parti du président de l'époque. Ensuite, on se retrouve en 2015, l'année dernière, donc avec la loi Santé Touraine d'un gouvernement socialiste et qui propose exactement la même mesure, toujours dans le même cadre, dans le cadre d'une réflexion sur la santé et surtout comment faire pour combler le trou de la sécu. C'est ça la préoccupation. Donc je dirais que si c'est...
Attendez, vous pouvez simplement faire le lien entre combler le trou de la sécu et lutter contre des mouvements sur Internet d'expression ou d'incitation à l'anorexie.
Voilà, là, et justement, c'est ça, si vous voulez, le pas logique qu'il faut opérer pour comprendre qu'est-ce qui se passe derrière un trouble alimentaire. Il y a un élément de réflexion d'abord sur comment faire pour rationaliser le système de santé français qui passe par une introduction d'une logique néolibériste qui, en gros, vise à limiter la dépense de l'État. Cela crée évidemment des déséquilibres au niveau du territoire français. Donc on crée artificiellement parfois ou des déserts médicaux ou parfois on limite les structures de prise en charge et d'accès aux soins. Et donc les personnes qui n'arrivent pas à trouver dans leur ville ou dans leur région une structure spécialisée, un groupe de réflexion ou des spécialistes sur les troubles alimentaires vont chercher cette information en ligne. Et donc je dirais que la première chose dont ce prétendu mouvement Pro-Anna est le symptôme est d'une restriction de l'accès aux soins. Mais en même temps, ceci est aussi lié à une autre mouvance qui est une mouvance de recherche justement d'information en ligne, mais aussi de recherche d'occasion d'expression de soi en ligne. Et si quelqu'un est souffrant ou atteint d'un trouble alimentaire ou vit avec un trouble alimentaire d'une manière ou d'une autre, il ou elle veut parler de son trouble. Évidemment, va le faire avec ses mots et ses compétences, ses connaissances, mais aussi va le faire avec les personnes qui font partie de son entourage. Et donc la deuxième chose dont le Pro-Anna est le symptôme est certainement une construction de communautés de patients actifs qui par contre ne correspondent pas au fantasme du patient qui va toujours dans le sens de son médecin traitant. Parfois le patient actif est quelqu'un qui porte un discours trouble, un discours problématique d'abord pour les professionnels de la santé et ensuite évidemment pour les hommes et les femmes politiques. Et je dirais aussi que quand même, c'est aussi le signal du fait que le référent culturel et même scientifique pour ces personnes qui cherchent, pour ces patients qui s'activent sur les réseaux, eh ben, c'est toujours un professionnel de la santé. Et ça, c'est l'un des résultats les plus importants de notre étude, et que si au début on imaginait, et nous-mêmes on l'avait fait et formulé comme hypothèse, que le ProAna était une manière de désintermédier, de combattre le biopouvoir des médecins, et donc presque de revendiquer un citoyen qui passe complètement, qui dépasse complètement le savoir expert des médecins pour de, bah finalement non, les médecins sont toujours dans le cercle de sociabilité des personnes qui ont participé à notre enquête, et on le voit si vraiment on décrit la cartographie des personnes avec qui ils parlent. À un moment ou un autre, il y a toujours quelqu'un qui les a suivis, qui les a encadrés, qui les a diagnostiqués, ou qui tôt ou tard est mobilisable en cas de crise ou en cas de problème de santé extrême. Et ça, c'est un résultat important. Ce n'est pas des personnes qui s'opposent à l'autorité médicale.
Alors, pour en revenir justement au projet de loi et à la réponse répressive, puisqu'il y a sous-jacent des projets d'économie du point de vue de la sécurité sociale, pourquoi est-ce qu'interdire ces lieux de sociabilisation et ces lieux d'expression de soi était, dans l'esprit des deux personnes, hein, donc en 2015 et en 2008, une façon de résoudre le problème et éventuellement de gagner de l'argent?
Alors, je vais être assez cynique et assez sociologue en même temps. C'est-à-dire que je m'interroge, justement, en tant que sociologue, sur les logiques de l'action d'un milieu social qui est le milieu social des élus. Et les élus ont évidemment leur propre logique qui vise évidemment à perpétuer leur état, statut, et donc finalement à être réélus. Et donc ils doivent proposer des lois qui puissent les mettre en valeur, leur propre action, et en même temps limiter au maximum l'impact sur le budget de l'État. Et si vous devez proposer une loi qui vise un problème important comme les troubles alimentaires, mais en même temps vous pouvez pas engager les dépenses de l'État, et vous ne pouvez pas créer de nouveaux hôpitaux, créer de nouvelles structures, former de nouveaux professionnels, quelle est la solution la plus simple, et en plus celle qui est utilisée de plus en plus depuis 2008, censurer Internet ou faire quelque chose sur ou avec Internet. Pourquoi? Parce que les élus aujourd'hui, en France en particulier, s'imaginent qu'une politique qui passe par le numérique est une politique à coût zéro. C'est-à-dire une politique qui ne touche pas les caisses de l'État, mais c'est aussi...
Voir qui en rapporte, hein, parce qu'il y avait aussi l'idée d'amende et de...
Voilà.
De peine financière.
Oui, et ça c'est l'autre élément. Voilà. En plus, si on remarque les propositions de loi qui ont été proposées dans les dernières années, parce qu'évidemment il y a la France, il y a l'Italie qui en 2014 a proposé une loi qui était absolument identique, à chaque fois on a des amendes de 10 000, 20 000, 75 000, à chaque fois, enfin, si on suit le voyage des lois, la trajectoire des lois, à chaque fois on voit monter de plus en plus ces amendes.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Jésus.
Ces refus à bouche fermée qui font du corps blanc un corps habillé et sonne l'éclat des frivolités, car ce gamin là me montre tout et pointe du doigt la non-beauté des nudités pour m'initier dans un sourire à la chaleur humaine. Me montre tout et pointe du doigt la non-beauté des nudités pour m'initier dans un sourire à la chaleur humaine.
La maigreur est belle, des jolis bras tout fins, un dos presque transparent, un ventre plat, tout plat,
des jambes fines, ça fait rêver.
Je suis prête à ne plus manger pour atteindre mon objectif.
Je fais beaucoup de sport jusqu'à l'épuisement. Je me prive de manger ou des fois je me fais vomir.
Je trouve toujours des excuses bidons, mais valables.
Personne de mon entourage n'est au courant.
Je pense que l'anorexie, c'est une maladie. Par contre, être proanant, c'est un choix.
Nous sommes dans une société de surconsommation, de perte d'identité, de perte d'unicité. Donc, les proanants sont attirés par cette image de maigreur. Car oui, elle choque, elle provoque, mais surtout, elle apporte, malsainement, l'attention sur soi, l'impression de puissance sur les autres, d'être forte, alors que ces filles, en bout de ligne, se prennent au piège de la véritable anorexie. Elles tombent dans le cercle vicieux de ce qui les attirait et causent ensuite leur perte.
Parce que j'aimerais être légère comme un oiseau.
Parce que j'aimerais flotter dans mes vêtements.
Parce que j'aimerais avoir la perfection.
Parce qu'Anna me soutient.
1 plus 1 égale 2, c'est le titre du documentaire réalisé par Catherine Junot au Québec il y a quelques années et dans le cadre d'un projet filmique au sein d'un collège. Des jeunes femmes avaient ou bien écrit des textes à l'occasion ou bien repris des témoignages qu'elles postaient elles-mêmes sur les réseaux sociaux. Vous montrez bien combien cette sociabilisation en ligne, et vous le disiez tout à l'heure assez brièvement, est une recherche de sociabilisation avant toute chose et d'expression de soi, à travers quel genre de mise en scène de soi? On parlait des contenus postés, mais vous montrez aussi parfois l'usage de un profil malade et un profil non malade, et puis parfois trois ou quatre profils. Quelle technique est utilisée?
Oui, c'est vrai qu'il y a très souvent, en fait, une tendance de la part de ces personnes à ne pas faire connaître ce qui leur arrive à leur entourage social, à leurs proches, la famille, les amis, les enseignants. Et c'est essentiellement parce qu'elles se rendent compte que les autres ne comprennent pas. Donc, aller sur Internet, c'est une manière, en fait, de chercher des pairs, de chercher des personnes qui l'ont déjà vécu et qui, donc, peuvent comprendre sans juger ce qui ne leur arrive pas dans la vie quotidienne, même si, très souvent, les proches font l'effort, hein. C'est pas qu'ils essayent pas, mais il y en a plusieurs qui nous ont dit, ceux qui sont pas passés par là, ils vont jamais vraiment comprendre. Et donc, pour que on puisse vraiment parler avec des pairs en se sentant un petit peu protégé, on essaie d'y aller en anonymat. Sur des blogs et forums qui sont séparés du reste. Donc, éventuellement, même avec un profil Facebook qui n'est pas le vrai, qui est un second profil, qui est peut-être pas très durable, mais qu'on essaie de créer pour juste cette partie de ces interactions sociales. Et on essaie autant que possible de garder ça séparé du reste, la conscience que les informations peuvent passer et être fortes, et il y a une volonté parfois très explicite que un éventuel futur employeur ne doit pas être au courant de tout cela, quoi, quand même. Donc il y a ces espaces un petit peu séparés où on va d'abord simplement pour chercher de l'information. On a des symptômes au début qui sont pas forcément tout de suite reconnus, même par un médecin généraliste, par ses parents, par son entourage, et on essaie de comprendre ce qui arrive. C'est dans un deuxième temps qu'on se met à lire les témoignages des vies des autres et peut-être à témoigner soi-même, peut-être même à s'activer comme, je sais pas, modératrice d'un forum ou à prendre un rôle plus actif. Et c'est là alors que on peut s'exprimer plus et raconter un peu plus sa vie, ce qui est quelque chose qui peut en fait être un grand soulagement pour des personnes qui se sentent très seules. Si on fait une anorexie, on est seul. Les amis sortent pour une soirée pizza et on essaie de pas y aller parce que sinon tout le monde va s'apercevoir que je suis la seule qui mange pas. N'en parlons même pas si c'est des crises de boulimie dont on a honte. Et alors là, c'est quand même une possibilité de récupérer un petit peu de sociabilité qu'on aurait perdu par ailleurs. Et c'est peut-être pas les meilleurs environnements du monde où le faire, mais c'est quand même un début. Et ce qui est le plus intéressant pour nous, ce qui a été le plus intéressant d'observer, c'est qu'il y a des formes d'autorégulation quelque part qui se mettent en place. Donc, il y en a une qui commence à raconter, je ne sais pas, j'ai mangé, voilà, il y en avait une qui racontait que pendant, elle avait fait le pari de manger pendant je ne sais plus combien de jours, un fruit par jour. Et donc, chaque jour, elle postait sur Internet.
Pas du côté bonne santé, du côté juste un fruit par jour.
Pas du tout, juste un fruit par jour. Et chaque jour, elle postait, voilà, j'ai réussi, aujourd'hui aussi, j'ai mangé qu'un fruit. Et donc, au début, toutes les autres, « Ouais, c'est super, magnifique, mais tu es très bien, comment tu fais ?» Et puis, au bout de quelques jours, il y en a une qui fait « Mais tu pourrais pas quand même manger deux fruits ?» Et puis, petit à petit, deux fruits, c'est pas non plus beaucoup, mais c'est quand même mieux que un. Et petit à petit, elle est revenue à quelque chose de beaucoup plus normal. Donc, il y a quand même une aide, peut-être involontaire, peut-être implicite, mais qui est venue de quelqu'un qui était une père, qui avait aucune compétence médicale et qui a pourtant aidé la personne en question à revenir sur un comportement quand même plus normal.
Et c'est ce qui me semble l'une des conclusions les plus intéressantes, parce qu'elle va tellement finalement à contresens de ce qui a circulé précédemment et pendant plusieurs années, c'est-à-dire la vigilance type que vous décrivez et à laquelle on ne s'attend pas quand on ne connaît pas et qui règne entre ce que vous appelez justement les pères. Est-ce que c'est une vigilance sur laquelle peut s'appuyer une politique de prévention et une politique de santé, et dans ce cas, comment, bon, Antonio Casini?
Alors, évidemment, là, ce qu'on a préconisé dans notre étude et qu'on préconise encore dans le livre est qu'il y a un usage de ces communautés en ligne, même à des finalités de guérison. D'abord, parce que il ne s'agit pas de sites monolithiques, encore une fois, animés par une seule idéologie, mais des sites de controverse. Il y a des personnes qui sont justement des pro-guérisons, tout en étant des pro-ANA. Donc, à l'intérieur même de cet univers, il y a vraiment une énorme variété, et donc il y a peut-être une manière de passer par des ambassadeurs qui seraient finalement des personnes atteintes d'un trouble alimentaire pour porter un message de santé publique, peut-être même d'un accompagnement par des professionnels. Mais pour faire ça, il faut d'abord former les professionnels. Et ça, c'était d'une part notre effort, et de l'autre côté, une excellente surprise à la fin de notre étude. Nous, quand on a commencé à s'intéresser à cette étude, un sociologue, et parfois il y avait aussi des informaticiens, des philosophes dans notre équipe, donc c'était extrêmement transdisciplinaire. En même temps, il n'y avait pas des spécialistes, genre
des troubles alimentaires.
Voilà, exactement. Et donc, de ce point de vue-là, d'une part, il y avait de la méfiance de la part des professionnels de la santé. De l'autre, par contre, c'est la chose qui nous a aidés pour mener l'enquête, parce que les personnes atteintes d'un trouble alimentaire ne voyaient pas en nous des gars et des filles en blouse blanche, et donc animés par une intention d'injonction thérapeutique, etc. Bon. Ceci dit, l'attitude des médecins a changé. Les professionnels de la santé ont commencé à voir nos résultats, ont commencé à voir qu'on avait vraiment un éclairage et qu'on apportait des éléments empiriques, et parfois on apportait vraiment des données dures, c'est-à-dire qu'on apportait vraiment, par exemple, des cartographies d'Internet de comment est structurée toute la webosphère des troubles alimentaires. Et là, ils se sont rendus compte que, quand même, c'était important d'intégrer ça dans le dispositif thérapeutique. Et pour faire ça, donc, évidemment, ils doivent commencer d'abord à s'apercevoir du fait que quelqu'un qui se pointe aujourd'hui dans un cabinet médical avec des symptômes d'un trouble alimentaire, à la différence des patients d'il y a 40 ans...
Il a déjà passé 2 ans, ou en tout cas 45 heures, sur tous les blogs que vous avez visités.
Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui vient aussi avec une ébauche de diagnostic, qui vient avec un certain nombre de connaissances que peut-être ses parents ou grands-parents n'avaient forcément pas, et qui parle non pas sur un pied d'égalité avec le médecin, mais qui s'imagine que le médecin, quand même, soit conscient du fait qu'il y a des usages informatiques qui, en plus, sont en continuité avec tous les usages informatiques. C'est-à-dire, j'ai mon smartphone face à moi, je fais un tour sur Facebook et je fais aussi un tour sur mon forum préféré qui parle de troubles alimentaires. Le médecin doit avoir une capacité d'intégrer ça dans le dispositif thérapeutique. Ensuite, le médecin doit aussi être capable de se présenter sur ces sites, voire peut-être faire évoluer certaines communautés. Alors, par exemple, des grandes associations européennes comme l'association britannique Beat Eating Disorders, ont créé des forums de discussion qui sont faits pour des professionnels et pour des personnes atteintes de troubles alimentaires, dans lequel on parle avec une énorme liberté de ton et de registre qui ferait vraiment scandale dans l'Europe, en Europe continentale. Ou, pour rester en Europe continentale, par exemple, des associations aux Pays-Bas qui ont créé carrément des plateformes de blogs pour que les gens créent leurs propres petites blogs. Et même si parfois, encore une fois, le discours est problématique, et en même temps, c'est un discours admis. Pourquoi ? Parce que c'est mieux de, d'abord, ne pas censurer, et ça c'est l'autre résultat vraiment important de notre étude, est que la censure nuit gravement à la santé de ces personnes.
Parce qu'il y a toujours moyen de passer outre.
Parce que non seulement il y a ça, il y a un effet de clandestinité, c'est-à-dire elle déclenche des effets de clandestinité, voire de extrémisation de certaines postures vraiment fortes. En plus, il crée une espèce de bulle de silence autour de ces communautés. Et enfin, il y a aussi un effet de multiplication des contenus. Finalement, si ces contenus sont censurés, selon ce qu'on appelle le célèbre effet Streisand, ils se reproduisent partout. Finalement, si je suis censuré en France, je vais créer le même blog sur un serveur allemand et sur un serveur suédois ou sur un serveur américain. Et donc, au lieu d'avoir un seul blog, je vais me retrouver avec 4 blogs. Et ça, on le voit vraiment dans les réseaux sociaux d'Internet. On a fait des études, des collègues de Virginia Tech et de Georgia Tech ont fait des études sur la censure sur Instagram, et ils ont remarqué que après que Instagram a commencé à censurer des images et des comptes pro-ANA, ces comptes ont proliféré, et maintenant il y a 4000% plus de images et de comptes qui se revendiquent pour ANA.
Donc
après la censure.
Et quand on craint des phénomènes d'émulation, puisque c'était l'hypothèse de départ et l'hypothèse qui présidait à des décisions comme le projet de loi en 2008 ou en 2015, là, quand il y a une multiplication et une invasion de ces images-là sur Instagram, il y a déjà plus de dangers qu'à la base. Et encore, ça, c'est à discuter.
C'est à discuter. Il y a un bémol à introduire là tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication, mais c'est pas de l'émulation. C'est-à-dire, il y a une multiplication de la part de les mêmes personnes qui ouvrent 4 comptes au lieu d'en avoir seulement un.
Ça
parce qu'ils craignent.
C'est contagieux.
Voilà. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qu'on a remarqué. Nous, on a fait des cartographies d'Internet en France en particulier en 2010, en 2012, en 2014. Le nombre de sites et de forums reste stable, vraiment d'une manière extrêmement forte et solide.
Parce que cela replace peut-être la profondeur de ce trouble alimentaire qui n'est pas juste un objet viral sur Internet, qui n'est pas juste la contagion d'un chat mignon. C'est un trouble dont vous disiez qu'il est parfois associé à d'autres morbidités, qu'il est parfois est très souvent associé à des histoires personnelles. C'est-à-dire que c'est pas que du reclic, c'est pas que du retweet. Il y a vraiment des choses très profondes. Simplement pour revenir aux questions financières, puisqu'elles sont très concernantes et qu'elles sont très impactantes. Créer des plateformes de parole et d'expression sur Internet, ça coûte moins cher que d'ouvrir des salles avec des groupes de parole et des psychologues attitrés dans des structures où souvent et en ce moment il y a très peu de budget pour le faire. Est-ce que c'est une solution qui a été, je sais pas, entendue et audible par les politiques auxquelles vous avez éventuellement adressé vos recherches?
Oui, on a beaucoup plôné effectivement l'utilisation. Je disais parfois quand je parlais aux associations en particulier, il faut combattre le pro-ANA avec ses propres armes, c'est-à-dire utiliser, se saisir des instruments du web pour aller offrir exactement ce que ces personnes cherchent, mais d'une manière plus contrôlée et d'ailleurs plus répondante à leurs exigences d'avoir un suivi, une orientation vers les soins un peu propre. Il y a des associations qui font déjà cela. L'expérience de l'association BIT que nous mentionnons souvent parce que nous avons été en contact avec eux, ils nous ont facilité l'enquête, la partie britannique de notre enquête. Eux, ils ont un retour très positif, en particulier sur les aspects financiers. Pourquoi ? Parce qu'ils disent il y a quand même un coût d'organiser, par exemple, un groupe de parole sur Internet. C'est quand même un coût beaucoup plus faible que le faire en présentiel. On peut arriver à joindre des personnes qui vivent en milieu rural, par exemple, ou des personnes qui sont peut-être localisées tout près, mais qui n'oseraient pas trop se déplacer pour aller se montrer à un groupe d'autres avec un trouble alimentaire.
Parce qu'il y a aussi...
Par contre, voilà.
Une diminution du coût social, et vous le montrez bien, c'est-à-dire qu'Internet, comme vous le dites, Antonio Gasilli, ça peut être vraiment dans la main, dans sa chambre, à une heure où personne ne nous voit et où on n'est pas vu. Donc il y a à la fois une diminution du coût financier, mais aussi une diminution du coup sociale, mais peut-être pour revenir plus précisément au fait d'être audible en France, vous dites bien, et ça semble très important pour vous, que vos recherches soient entendues par la sphère politique et la sphère de santé. Elle est entendue de quelle manière ?
Alors, entendu d'abord via une démarche active et, si l'on veut, carrément activiste de notre part au moment du lancement des deux dernières lois anti-ANA, donc en 2014 en Italie, en 2015 en France. En 2014 en Italie, bon, c'était surtout Paola qui a travaillé avec certaines associations italiennes et surtout des professionnels qui finalement ont fait tomber la proposition de loi qui n'a même pas été présentée ni discutée à la Chambre des députés italienne. En 2015, en France, la situation était différente parce que effectivement, là, vraiment, on a eu besoin d'insister longtemps et avec une pluralité d'acteurs de la sphère politique, donc des députés, des sénateurs. On a dû suivre vraiment cet amendement qui proposait justement la mise en prison de personnes atteintes de troubles anorexiques et des amendes extrêmement dures. On a dû la suivre et la combattre vraiment partout, jusqu'à la commission mixte paritaire à la fin, même si à la fin, nous, on n'a pas... Et donc, surtout, c'était une question de créer des occasions de contact et d'échange avec les femmes et les hommes politiques, être auditionnés. Et là, effectivement, on a vu qu'il y a eu un avant et un après. Un avant et un après, c'est-à-dire, en particulier, j'ai à l'esprit une audition que j'ai faite au Sénat, à la commission des affaires sociale du Sénat, et il y avait un avant et un après. Avant, ils étaient convaincus que le pro-ANA était un mouvement organisé, une secte.
À combattre.
À combattre, évidemment, et ensuite, ils ont vu des histoires de vie, ils ont vu des données, ils ont vu des résultats, et effectivement, ils ont été beaucoup plus convaincus aussi du fait qu'il y avait un travail à faire avec les professionnels de la santé, avec les associations, avec les familles, et évidemment, avec les personnes concernées.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richaud.
Je ne suis pas un concept, je ne suis pas une théorie, je veux être reconnue et je milite pour ça. Une voie à la transition vers une concordance plus joyeuse et sensible entre son identité de genre et son corps, entamée, Diane Le Riche se consacre à sensibiliser différents publics, notamment au sein de l'association Acceptesti ou lors de la marche Existence qui aura lieu samedi prochain à Paris. Elle le rattache à son côté maternel de toujours et à son souci des générations futures.
Ma maman était vraiment très très maternelle, beaucoup d'amour, peu de disponibilité, mais beaucoup d'amour. Elle en donnait peu, mais beaucoup. Et j'ai pu transposer parce que j'étais mariée, j'ai deux enfants, donc je vivais ma maternité en paternité qui était à vrai dire la maternité. Et puis vu la difficulté de mon parcours, je suis une maman dans l'âme, je m'occupais de mes neveux et nièces, je me suis occupée d'enfants aussi dans ma jeunesse. J'ai toujours été très très maternelle, très maman, je suis peut-être même plus maman avant d'être femme. Et quand je vois la difficulté du parcours, je me dis mais mes enfants, dans le sens général, les jeunes personnes trans, je veux pas qu'elles subissent ça. Je veux pas qu'elles subissent le regard, le jugement. Je veux pas qu'on juge les personnes. C'est la seule personne qui peut se juger, c'est soi-même. On n'a pas le droit d'être jugé pour qui on est. On fait pas d'acte répréhensible. Donc je milite. Je milite parce que je suis pas un concept. Je suis pas une théorie. J'existe. Les personnes trans existent, ont toujours existé depuis la nuit des temps. Et je milite pour être reconnue en tant que femme, en tant qu'homme aussi, dans la diversité, pour retirer tous les préjugés quand on voit la manif pour tous, où ils ont fait des textes, proposé des textes de loi justement contre les personnes trans. Quand on voit le pape qui se permet de dire qu'il y a une théorie du genre qui est inculquée dans les écoles françaises, mais la théorie du genre ça n'existe pas, c'est juste l'égalité entre les genres. Et les personnes trans qui arrivent maintenant, il faut leur faciliter la vie.
Alors, de quelle manière ?
Simplement en ayant le changement d'état civil devant un officier d'état civil sur l'autodétermination. Nous savons qui nous sommes. On ne fait pas ça du jour au lendemain. C'est pas dans un tour de main. C'est assez déjà dur psychologiquement d'arriver à se débarrasser de tout ce que la société nous conditionne. Si, en plus, les institutions nous demandent encore des preuves, il faut savoir que Au début des changements d'état civil, il y avait des expertises médicales. La vaginoplastie, qui consiste à faire la transformation de l'organe génital masculin en organe génital féminin, ben, on vérifiait la profondeur. Il y avait de l'expertise médicale de ce niveau. Et on a la Manif pour tous qui veut refaire des expertises médicales. C'est juste aberrant. Est-ce qu'on va, sur une personne femme classique, qu'on dit cisgenre, est-ce qu'on va, à 18 ans, leur faire une expertise médicale pour savoir sur leur vagin? Mais les vagins sont divers, comme les femmes sont diverses. Il n'y a aucune règle physiologique qui dit oui, cette personne est une femme, cette personne n'est pas une femme. On a tellement de force, tellement d'énergie. On se bat tous les jours pour à chaque moment. Moi, je ne veux pas que nos enfants subissent ce que l'on a à subir. Nos parcours, nous, en tant qu'adultes, doit servir d'exemple pour ce que la société ne doit pas faire envers elle. Envers les personnes plus jeunes, pouvoir protéger aussi les enfants. Le nombre d'enfants trans qui sont abandonnés, rejetés par leurs parents, c'est impressionnant. Il faut les aider, les épauler. Même les parents, il y a des parents qui accompagnent, il faut les aider, les épauler, il faut les protéger. On sait très bien que quand on est enfant, quand on est jeune ado, le monde du collège, du lycée est très cruel. Le nombre de personnes trans qui se suicident dans les 18-25 ans et même avant, il y a 25% de personnes trans qui se suicident. 63% pensent au suicide. C'est quand même énorme. Et ce n'est pas parce qu'on est trans qu'on se suicide. C'est parce que la société, ce qu'elle nous inflige, c'est toutes les discriminations que l'on reçoit. Parce que les gens ne sont pas informés. Donc, je milite en même temps faisant des plaidoyers pour informer les gens, pour informer les institutions, pour expliquer que non, nous ne sommes pas des monstres, nous sommes simplement nous-mêmes et on ne va pas révolutionner la société, on ne va pas déconstruire la société. Nous sommes aussi divers que le monde est divers. I used to work on my feet for $7 an hour. Call my mama like, mama, I ain't making minimum wage, mama. I'm on, mama, I'm on. Now I'm making 400, 600, 800K, mama. To stand on my feet, mama. Play these songs, it's therapy, mama. They paying me, mama. I should be paying them. I should be paying y'all, honest to God. I'm just a guy, I'm not a god. Sometimes I feel like I'm a god, but I'm not a god. If I was, I don't know which heaven would have me, mama. Let me run this bitch, I'm running to the ground, mama. The whole galaxy. Goddamn, fuck these lanes, I don't want none. Fuck these lanes, I don't want none. Fuck these niggas. Fuck these niggas, I don't want none. Fuck these niggas. Fuck you niggas, man. Fuck me, if I hate it on you. I'ma stick around. I'm gon' let my nuts hang. Nigga, you got some just like me, don't you? Or maybe not just like me. You know I'm Africano, Americano. And even if you have Japanese roots, run deep, family tree, throw a big shadow. Tech on me, please give me immortality. I'm going rapidly, fading drastically. Yeah. I pull a zip down. Wet your lips first, lick the tip now. Smoke some.
Ce très très beau morceau de Frank Ocean qui continue encore pendant de longues minutes, il s'appelle Futura Free. Pour conclure cette émission, juste parce que Diane Leriche en parlait, si vous voulez avoir plus d'informations sur Exist Trans, cette marche des trans qui aura lieu samedi à Paris, c'est-à-dire la veille de la manif pour tous, vous pouvez vous rendre sur existtrans.org. Vous pouvez aussi vous rendre, rien à voir, sur anamia.fr si vous voulez élargir votre lecture du livre Le phénomène Pro-Anna, troubles alimentaires et réseaux sociaux, publié aux Presses des Mines. Et le temps pour moi de vous remercier chaleureusement, Paola Tubaro et Antonio Casilli, d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci.
Merci.
Les nouvelles vagues, c'est terminé, mais ça continue toujours, ça ne s'arrête jamais sur les réseaux sociaux. On peut échanger sur Twitter, Facebook, mais aussi franceculture.fr, où l'on peut télécharger l'émission et la réécouter et la faire circuler, donc ne vous en privez pas. Un grand merci à Romain de Bec de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi, et à Véronique Villa qui la réalise. Michael Simon est à la suggestion musicale, tandis qu'aux manettes aujourd'hui, c'était Manuel Couturier. Dans un instant, on retrouve la littérature avec Mathieu Garrigou-Lagrange. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Très belle journée à tous.